Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regina. Paul et Rosemary avec vous pour un nouveau rendez-vous de Peuple du Monde. De l'annonce de la résurrection aux œuvres sociales du XXe siècle, en passant par la transmission de la foi, l'élaboration de la pensée et la structuration de la société, l'apport féminin à l'histoire du christianisme, souvent tenu dans l'ombre des figures masculines, mérite d'être remis en lumière. Une autre histoire de l'Église par les femmes, voilà le thème d'aujourd'hui.
L'histoire est comme un gant avec son endroit visible, celui des papes, des grands cardinaux et des rois chrétiens, et son envers caché, peuplé de millions de silhouettes invisibles, parmi lesquelles tant et tant de femmes. Une légion de l'ombre dont l'apport a souvent été mis en sourdine par un processus d'invisibilisation. Parce que dans une religion où la hiérarchie est masculine, il est aisé de considérer que le panthéon de ceux qui font se limite aux signataires des textes institutionnels. Mais aussi parce que l'histoire a longtemps été écrite par des hommes. Ce gant du christianisme, quelques femmes ont déjà commencé à le retourner dès les années 1990, à l'instar de l'historienne Elisabeth Dufour et de la bibliste Anne-Marie Pelletier, qui ont signé des ouvrages de référence sur l'histoire des chrétiennes, ou plus récemment, des théologiennes protestantes Elisabeth Parmentier et Valérie Duval-Poujol. Quand on retourne le gant de l'histoire, tout un peuple féminin se lève, un peuple constitué de personnalités remarquables, patriciennes et esclaves, martyrs, abbesses et reines, béguines, femmes de lettres et de sciences, missionnaires et militantes, résistantes, éducatrices, laïques et religieuses.
Il y a 2000 ans, un homme juif parcourt les routes de Judée pour annoncer la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. Il n'est pas seul. Certes, il y a les apôtres que l'on connaît bien, mais parmi les gens qui le suivent se trouvent des femmes. L'évangéliste Luc en nomme trois. Marie-Madeleine, Jeanne, la femme de Cusa, l'intendant d'Hérode, et Suzanne. Dans la relation aux femmes, estime Valérie Duval-Poujol, auteur de la Bible « Est-elle sexiste ?», le Christ propose un modèle inégalé. Il les prend pour amies, discute théologie avec elles, les envoie en mission. C'est une attitude incroyable, d'une impressionnante liberté. Non seulement il traite les femmes avec respect et dignité, mais surtout, il ne les réduit pas à leur sexe ou à leur maternité. Ainsi, à l'une d'elles qu'il interpelle en criant « Heureuse la mère qui t'a portée en elle et dont les seins t'ont nourri », il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est à une femme, la Samaritaine, que, pour la première fois, il révèle sa divinité. C'est aussi une femme, Marie-Madeleine, qu'il choisit comme premier témoin de la résurrection. Et il fait cela à l'époque où le témoignage des femmes n'est pas considéré comme une chose fiable, relève la bibliste. Sa manière d'agir contraste avec les mœurs de l'époque. On ne le voit pas tenir de grands discours féministes ou renverser la table du patriarcat, ce qui correspond aux attentes contemporaines. Mais sa manière d'agir en elle-même amène suffisamment de subversion pour que rien ne soit plus jamais comme avant. Ainsi, Jésus inaugure une nouvelle ère qui va faire des émules dans les premières églises.
L'Antiquité est la période des femmes protectrices et martyres. Dans les premières communautés chrétiennes, en effet, les femmes ne sont pas des actrices de seconde zone. Paul, que l'on a parfois taxé de misogynie, en raison de citations qui gagnent toujours à être contextualisées, est celui qui écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » L'apôtre a des collaboratrices comme Lydie, Priscille et l'apôtre Junia. Tous les ministères sont représentés, relève Valérie Duval-Pujol, enseignement, prophétie, direction. C'est à Phébé, une femme de Sancré, près de Corinthe, que l'apôtre demande de porter la lettre aux Romains. Or, porter ce traité de théologie majeure, explique la bibliste, ce n'est pas être une factrice, mais la lire et l'expliquer. Phébé est par ailleurs la seule femme du Nouveau Testament à être qualifiée de diakonos. Diakonès, Phébé, c'est une traduction anachronique, nuance Valérie Duval-Pujol, car le terme date du IIIe siècle, l'époque où l'on a créé cette sous-catégorie, car précisément on ne voulait pas ordonner les femmes. Diakonos signifie que Phébé porte la parole de Dieu, sans doute car elle a porté la lettre, mais il est probable qu'elle ait eu un rôle spécifique dans l'annonce de l'évangile pour toute l'église de Corinthe. Elle est aussi prostatis, mot qui dans l'Empire romain désigne les bienfaiteurs, ceux qui n'hésitent pas à mettre leur réseau et leurs moyens au service d'une cause. En somme, Phébé encense Paul et une dirigeante d'église. Mais les traducteurs ont minimisé son rôle. Pendant des siècles, ceux-ci étaient des hommes. Ils ont fait du bon travail, mais ils étaient les enfants de leur époque qui ont parfois tiré la couverture vers le patriarcat de leur société, alors qu'il y avait des trésors d'égalité dans les textes bibliques.
Si les femmes ont un rôle fondamental dans les premières communautés chrétiennes, elles vont perdre peu à peu leur place dans l'organisation des assemblées. Marie-France Ballet, grande historienne de l'Antiquité, relevait ainsi que la rupture semble dater de la fin du IIe siècle, quand les assemblées d'église commencent à se tenir à l'extérieur des maisons. Elles résultent moins d'un cléricalisme naissant que de l'intégration de la communauté chrétienne dans l'espace public, écrit-elle dans l'église à la maison. Le christianisme s'adapta aux normes sociales, non sans réticence ni résistance durable, ce qui coupa court au féminisme qui avait pu émerger dans les églises de maisonnées.
En dehors de l'espace de la maison, c'est dans les arènes que les femmes témoignent tragiquement de leur foi lors des persécutions. Agnès, Cécile, Blandine ou Félicité et Perpétue, jeunes mères livrées au taureau à Carthage en 203. Leur vie est généralement peu connue, édulcorée par les moines copistes pris eux aussi dans la culture de leur époque. De copie en copie, écrit Elisabeth Dufour, dans les grandes inventions du christianisme, les martyrs masculins montent en grade dans les chaises sociales et les martyrs féminines, souvent rajeunies et enjolivées, retrouvent une virginité qu'elles n'avaient plus toujours au moment de leur entrée au paradis, car parmi les femmes mises à mort et vénérées pour leur foi, bon nombre, esclaves ou patriciennes, étaient mères de plusieurs enfants, dont les noms furent parfois retrouvés dans les actes d'héritage. Mais le signe est sans appel. Le sang de ces femmes, qui témoignent de l'incandescence de leur foi avec un courage inouï, est une semence aussi féconde que celui de leurs frères.
Le Moyen-Âge est le temps des abbesses, des béguines et des recluses. Dans l'imaginaire collectif, le Moyen-Âge occidental a encore mauvaise presse. Une période perçue comme obscure, si ce n'est obscurantiste. C'est un peu vite oublier la complexité et la fertilité de ces 10 siècles qui commencent par la chute de l'Empire romain d'Occident et s'achèvent en 1492. Si l'on pense à l'influence des grandes reines chrétiennes telles Clotilde, qui joue un rôle clé dans la conversion de son époux Clovis à la fin du Ve siècle, ou la très pieuse Blanche de Castille, reine de France et mère de Louis IX, dit Saint-Louis, il faut se garder de généraliser sur leur pouvoir.
Derrière la conversion au christianisme des grands princes germaniques passés par l'arianisme, il serait naïf de ne voir que des motivations spirituelles, parfois inspirées par leurs épouses, en ignorant que cela relevait aussi de stratégies politiques. Catherine Vincent cite les contre-exemples de la princesse hongroise Élisabeth de Thuringe, rejetée par la cour à la mort de son mari, après avoir cherché à vivre un idéal évangélique de pauvreté, ou encore de Brigitte de Suède, qui vécut de 1303 à 1373. C'est l'une des patronnes de l'Europe, proclamée par Jean-Paul II en 1999, et qui, après avoir été très proche du couple royal suédois, fuit la cour qu'elle avait essayé d'évangéliser pour s'installer à Rome.
À l'arrière-plan des reines chrétiennes, dont le pouvoir varie selon les situations, les époques et les lieux, le monde des femmes au quotidien exerce, quant à lui, une influence continue et bien réelle. Des aristocrates aux femmes de la petite bourgeoisie des villes naissantes, les mères et les marraines assurent leur apprentissage et la transmission de la foi dans un univers où le christianisme imprègne le moindre geste. Les temps de cuisson, par exemple, étaient formulés en nombre de prières. Note Catherine Vincent. Fait notable, au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, on produit massivement des livres d'heures à destination des milieux aristocratiques et de la bourgeoisie citadine. Certains portent la trace d'une commande féminine, relate Catherine Vincent. On a retrouvé des passages montrant que les femmes s'en servaient pour alphabétiser leurs enfants, chaque lettre correspondant à une vertu chrétienne. Au moment où, dans les milieux intellectuels chrétiens, le discours sur les femmes pâtit de la redécouverte d'Aristote, des femmes réussissent à tracer leur voie, loin des clichés misogynes. Des abbesses et des moniales extrêmement cultivées produisent des ouvrages amenés à faire date. Parmi ces grandes abbesses, l'histoire a principalement retenu le nom d'Hildegarde de Bingen ou de Claire d'Assise. Mais on a eu tendance à réduire cette dernière au pendant féminin du couple spirituel formé avec François, regrette l'historienne italienne Lucetta Scarafia, qui note que Claire a été la première femme à écrire une règle pour un couvent de femmes, alors que jusqu'alors, on se contentait d'adapter les statuts masculins. Elle s'est battue parce que le pape ne voulait pas lui accorder de vivre la grande pauvreté. C'est celle qui a le mieux compris François. Un jour, elle lui avait demandé de prêcher pendant le carême. Il a tracé un cercle de cendres sur le sol et il a médité en silence avec les religieuses qui étaient profondément heureuses. Cette compréhension dans le silence est une chose fondamentale.
Dans le haut Moyen-Âge, les monastères féminins constituent une véritable pépinière. Les jeunes filles de l'aristocratie viennent y recevoir une éducation. Ils offrent aussi un destin possible en dehors de la vie matrimoniale. Les caractéristiques du mariage chrétien étaient en rupture avec les usages traditionnels, valorisant notamment l'échange de consentement et reconnaissant une certaine place à la femme. Mais cela a mis du temps à s'établir. Dans les faits, prévalait le mariage arrangé dès la puberté pour les jeunes filles. Pour certaines, se consacrer à Dieu et se considérer comme épouse du Christ pouvait être une manière d'affirmer leur propre choix. Ce qui ne signifie pas que la vocation se réduit à une échappatoire. Prenons l'exemple de la flamboyante Catherine de Sienne qui vécut de 1347 à 1380. Extraordinaire destin que celui de cette petite fille qui fait vœu de chasteté dès ses 7 ans et voit sa sœur mourir en couche. Résistant à un mariage arrangé, Elle impose sa vocation à ses parents. En ce XIVe siècle tumultueux, elle plaide pour le retour du pape à Rome, arpente les routes, interpelle les dignitaires religieuses et politiques avec une liberté de ton inédite. Au point qu'une pionnière du féminisme, comme Joséphine Butler au XIXe siècle, a pu voir en elle une figure d'inspiration.
Les monastères étant réservés à une certaine élite, des femmes explorent des voies originales pour trouver leur place. Si on ne parle pas encore de mystique, on reconnaît la valeur des femmes inspirées ou des saintes femmes. Les cours royales ont souvent leur prophétesse, relève Catherine Vincent. Ces femmes inspirées, parmi lesquelles on peut compter Jeanne d'Arc, ne sont pas si surprenantes à l'époque. Jeanne a pu aller jusqu'au bout parce que cette aura d'une inspiration divine qui habite les petits, fortement évangéliques, était valorisée. Dans les villes vivent aussi des recluses, emmurées volontaires à proximité d'églises ou des portes des villes, vouées à la prière et à l'écoute, que la population vient consulter par une petite fenêtre. Ou encore les béguines, proches des ordres mendiants, libres de circuler comme elles veulent, sans prononcer de vœux perpétuels. Une liberté qui leur vaut d'être surveillées comme le lait sur le feu par les autorités ecclésiales.
La moindre imprudence peut avoir des conséquences dramatiques. En 1310, la béguine valencienne Marguerite Porrette est brûlée en place de Grève à Paris. Son tort, avoir écrit un traité de mystique, le miroir des simples âmes, en langue vernaculaire, explique Catherine Vincent, c'est-à-dire une œuvre accessible à un plus grand nombre, évoquant une relation à Dieu sans la méditation du clergé. Mais son procès a probablement été une machination politique autant que religieuse. Philippe le Bel voulant donner des gages d'orthodoxie au pape après le procès de l'ordre du Temple. Marguerite Porrette fait partie des nombreuses sources d'inspiration féminine de Maître Edgard, au même titre qu'une autre béguine, Adévitch d'Anvers, et peut donc être considérée comme une des sources de la philosophie européenne.
Amis auditrices, amis auditeurs, merci pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour un prochain rendez-vous de Peuple du Monde.